Vous écoutez RTL.
Où sont Alessia et Livia? Où sont-elles? Où est-ce qu'elles sont? Elles ne peuvent pas évanouir dans la nature comme ça.
Bonsoir, 10 ans d'interrogation, de silence et d'espoir envolé. Le 30 janvier 2011, disparaissaient les jumelles Alessia et Livia, deux petites filles blondes âgées de 6 ans, enlevées par leur propre père Mathias Schepp dans la région de Lausanne, ce qui ressemble alors à un rapt intrafamilial sur fond de divorce douloureux, va se transformer en une troublante énigme criminelle. Un jeu de pistes, Suisse, Marseille, Corse, Italie, qui va mobiliser des centaines de policiers, une course contre la montre pour rattraper un ravisseur qui sème des indices et multiplie les écrans de fumée. Les visages d'Alessia et Livia s'affichent alors partout, tout comme celui de leur mère Irina Luchidi, qui va remuer ciel et terre pour qu'on retrouve ses filles. Leur père ne va jamais donner aucune clé permettant de rompre ce suspense. Il va tout au contraire emporter avec lui son secret sans jamais révéler où pouvaient se trouver les jumelles. 10 ans ont passé et l'idée que les petites filles aient pu être assassinées par leur père semble l'emporter. Hypothèse la plus vraisemblable, certes, mais si la vérité était tout autre? On va essayer de répondre ce soir à cette question, refaire avec nos invités le trajet d'Alessia et Livia, sonder le mystère de cette disparition qui, 10 ans après, hante toujours les esprits.
20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Ce soir dans l'heure du crime, le mystère des jumelles Alessia et Livia. Affaire qui commence à l'hiver 2011 dans un village suisse sur les bords du lac Léman, à quelques kilomètres de Lausanne. Dans l'après-midi du dimanche 30 janvier 2011, Irina Luchidi attend patiemment ses filles. Elles ne devraient pas tarder. Les jumelles Alessia et Livia, 6 ans, ont passé le week-end avec leur père Mathias Schepp. Il les récupère tous les 15 jours depuis que le couple est à l'instance de divorce. Même si les relations entre les époux sont tendues, Mathias a toujours été opposé au divorce. La garde alternée s'est toujours déroulée sans le moindre accroc. Au mois de décembre, le père a même emmené ses filles en vacances, une croisière sur un bateau dans les mers chaudes. Le couple n'habite plus sous le même toit. L'époux a conservé la belle villa achetée quand tout allait bien en 2006 au numéro 14 du chemin de Champagne dans le village tranquille de Saint-Sulpice à côté de Lausanne. Irina occupe, elle, un grand appartement avec ses filles à quelques minutes de voiture. Le couple est aisé. Mathias, un Suisse de 43 ans, est ingénieur dans l'industrie du tabac. Il travaille pour la firme Philip Morris. Irina, une Italienne de 44 ans, est experte du droit de la concurrence, récompensée pour son travail par un Industry Award en 2009. Il s'était marié, il y a 7 ans, dans le village natal d'Irina, Ascoli Piceno, dans la région des Marches, en Italie. Les jumelles se font attendre. D'ordinaire, Mathias est ponctuel. Une promenade qui sans doute a pris plus de temps que prévu. Enfin, le téléphone d'Irina bip. Il est 15h50. Un premier texto du père des jumelles. Il explique qu'il ne ramènera pas Alessia et Livia ce soir. Il dit qu'il les conduira directement le lendemain matin à leur école, l'école des Paquis, à Saint-Sulpice. La mère est surprise, ce scénario n'était pas prévu. Qui plus est, elle est prévenue par un simple message. Elle décide donc d'appeler Mathias. Il décroche, mais il paraît ennuyé. Il affirme qu'il est chez des amis et ne peut pas discuter. Il ne parle pas des filles et raccroche rapidement. Irina Luchidi a alors une bouffée d'angoisse. Mathias est injoignable. N'ayant plus aucune nouvelle, Irina quitte l'appartement, va sonner à la porte de quelques amis, mais personne n'a vu son ex-mari ou ses filles. La mère d'Alessia et Livia file alors à l'ancienne maison familiale, au numéro 14 du chemin de Champagne. Les lumières sont éteintes, la demeure est vide. Pas de traces de la voiture de Mathias dans le garage, une Audi A6 noire à l'étage. Les lits des enfants n'ont pas été défaits, les doudous en peluche des jumelles sont toujours là, tout comme leurs petits sacs à dos qui contiennent leurs affaires de rechange. Il semble que des valises aient été emportées. Irina Luchidi a un mauvais pressentiment. L'angoisse prend la place de l'inquiétude. Elle alerte la police du canton de Vaud, qui va tout de suite prendre l'affaire très au sérieux. Bonsoir Arnaud Béda.
Oui, bonsoir.
Merci beaucoup d'être là ce soir dans l'heure du crime, au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste en Suisse. On est là, Arnaud, au tout début de l'affaire, affaire que vous connaissez bien puisque vous l'avez suivi de A à Z. On va bien sûr raconter la suite dramatique des événements. Il y a ce couple qui ne s'entend plus et qui est un tournant, on peut dire, de leur vie. Le divorce, dans les jours précédents, juste avant la disparition des petites filles, a été officialisé entre les époux, c'est ça ?
Oui, exactement. Le divorce va être officialisé. Donc Mathias Schepp sait que ben, voilà, l'histoire est terminée. Il se met en tête que Irina va partir avec les jumelles vivre à l'étranger, en Belgique, à Bruxelles, ce qui est évidemment parfaitement faux. Mais voilà, il commence dans son esprit diabolique à se dire qu'il ne reverra pas ses jumelles. Et c'est sans doute à ce moment-là que naît la préméditation.
Ce qu'il faut bien dire, Arnaud Beda, c'est qu'effectivement, depuis le début, il n'y croit pas, Mathias Schepp, à ce divorce. Hein. Il a repoussé l'échéance, il pense qu'elle va revenir, son épouse, à vivre avec lui.
Oui, il est dans le déni le plus total. Il était parti pour vivre une histoire d'amour, un mariage, j'ai envie de dire, comme un bon petit Suisse, et il se retrouve face à cet échec qu'il n'arrive pas à digérer du tout.
Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu, le présenter, ce Mathias Schepp? Donc c'est un ingénieur, il a un jumeau, je crois, il a une famille,
c'est... Oui, alors c'est un vrai petit Suisse, c'est un personnage assez introverti, méticuleux, précis, rigoureux, mais quand même assez glacial. Écoutez, moi j'ai rencontré son frère jumeau, effectivement, il a un frère jumeau qui travaille dans une cimenterie, dans le Jura bernois, tout au nord de Lausanne, et on sent ce côté très froid, très très froid, qui glace vraiment le sang. Le frère jumeau que j'ai rencontré là, j'ose pas imaginer comment devait être Mathias Schepp.
Et qu'est-ce qu'il vous avait dit, justement, ce frère jumeau, quand vous l'avez rencontré? Il parlait de la famille ou pas du tout?
Absolument rien. Quand il m'avait identifié comme journaliste, il n'était pas vraiment très très content. Il m'a demandé de quitter les lieux très très rapidement, ce que j'avais fait en compagnie de mon photographe. Mais je vous assure que ça nous avait assez marqué avec mon camarade, parce que c'était vraiment il y avait quelque chose de complètement d'assez indescriptible dans la froideur et le côté glacial du personnage.
Alors, quelqu'un d'introverti, mais ça fait pas pour autant quelqu'un de violent. Il a jamais fait parler de lui, Mathias Schepp, c'est plutôt quelqu'un de sérieux et rangé.
Vous savez, comme dans tous les faits divers, vous trouverez des témoins qui vous diront que le docteur Petiot était un docteur formidable et très agréable. Donc, ou des gens qui ont trouvé Landru formidable aussi. Donc, vous savez, c'est tant qu'il n'y a pas cette crispation de l'âme humaine, vous savez, c'est le propre des faits divers. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, paf, ça péclote et ça vrille.
Voilà. Bien sûr.
Et là, on est dans ce cas d'espèce.
Bonsoir, Jacques Dallest.
Bonsoir.
Merci beaucoup merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, monsieur le procureur. Je rappelle que vous étiez procureur à Marseille entre 2008 et 2013. Vous avez donc très bien connu cette affaire et on va y revenir avec vous puisque vous l'avez traité très directement. Vous nous raconterez comment vous avez pu aborder cette affaire. Un peu plus généralement, je voudrais que vous nous posiez un petit peu le schéma. On a là un enlèvement intrafamilial. C'est peut-être l'un des pires cas de figure pour les enquêteurs et pour la justice que d'essayer de rattraper des personnes qui ont enlevé leurs propres enfants.
Oui, malheureusement, ce sont des situations que nous rencontrons assez régulièrement. Quelques-unes, d'ailleurs, donnent lieu au déclenchement du plan alerte enlèvement que vous connaissez. Lorsqu'il s'agit d'un père, souvent, ça peut être la mère, qui part avec un enfant dont il ou elle n'a pas forcément la garde. Et c'est toujours compliqué parce que derrière, on est sur un lien forcément affectif, sentimental entre le père ou la mère et l'enfant. Mais on peut craindre qu'il y ait un acte irréversible qui soit pratiqué sur l'enfant. Et donc, c'est une situation que nous connaissons, qui la plupart du temps se termine bien. Mais quelquefois, le drame arrive, malheureusement.
Alors oui, parce que la colère peut survenir, et puis ce qui est le pire peut arriver, évidemment. À tout moment, que font les enquêteurs à chaud? Que fait un parquet, un procureur? Quelles sont les premières consignes qu'on donne dès lors qu'il y a ce type d'enlèvement, encore une fois, très compliqué à gérer?
Alors, ce qui arrive souvent, c'est que la justice, enfin, les enquêteurs, le procureur interviennent a posteriori, c'est-à-dire pas immédiatement, puisqu'il est rare que la justice soit mise en mouvement immédiatement. Ça peut arriver, il faut pour cela que les proches le signalent. C'est souvent après coup, lorsque malheureusement la situation inquiète les proches, qu'une plainte peut être déposée, que le procureur peut être saisi. Et malheureusement, les heures ou les jours qui passent peuvent être des moments déterminants qui peuvent nuire à la bonne marche de l'enquête.
Bien sûr. Alors à ce moment-là, évidemment, vous n'êtes pas encore saisi des faits, vous n'êtes pas au courant de cette affaire. Pourtant, Interpol va pas tarder à lancer un avis de recherche. Il va être très rapide, je crois, dans 188 pays. Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le procureur, qu'est-ce que ça apporte? C'est un signalement donné à toutes les polices pour qu'on cadre bien le décor.
C'est une diffusion par voie de police dimension internationale, par le relais Interpol, qui touche énormément de pays. Alors sur un cercle d'abord assez délimité, c'est le cercle européen, des pays qui sont voisins, mais ça peut être élargi en fonction du temps qui s'écoule, sachant que la personne recherchée peut partir à l'étranger, aller très loin. Donc c'est une diffusion du signalement d'une personne recherchée, en espérant qu'un service de police, un particulier, puisse révéler un élément important au service d'enquête.
Le lendemain, Alessia et Livia ne vont pas se présenter à leur école. D'importants moyens sont aussitôt déployés par la police suisse. Et Interpol, effectivement, ne va pas tarder à lancer un avis de recherche dans 188 pays. Les polices suisses, françaises et italiennes sont mobilisées pour retrouver les jumelles et leur père, Mathias Schepp, qui se déplace au volant d'une Audi noire immatriculée à Lausanne. Une quarantaine d'hommes quadrillent le secteur de Saint-Sulpice et la route qui conduit jusqu'à Genève et la frontière française. Un hélicoptère survole le Léman, des chiens renifleurs font le tour de la maison de Mathias Schepp, des enquêteurs fouillent les ports du secteur, d'autres conduisent des investigations de voisinage, visitent les stations-service. L'idée qui prévaut alors est déjà que le père a quitté la Suisse avec les jumelles. Une hypothèse trop rapide pour la mère des enfants. Elle regrettera que l'on n'ait pas organisé tout de suite des battues dans le canton de Vaud, à des endroits où son ex-mari aimait bien se promener. Le fait est que le premier acte de l'énigme se joue bel et bien sur le sol suisse. Il est effectivement établi que le dimanche 30 janvier, Mathias Schepp a récupéré les fillettes vers 13h chez un voisin, chemin de Champagne. Elles jouaient avec des enfants de leur âge qui fréquentent la même école. Le voisin n'a rien remarqué d'anormal dans l'attitude de Mathias. Plus personne ensuite ne va voir le père et les jumelles. Avant même de prendre la route, il va pourtant rester encore 5 heures en Suisse. 15h50, quand il adresse son premier SMS à son ex-épouse, son téléphone borne dans le secteur de Morges, localité toute proche de Saint-Sulpice, sur la route de Genève. Il va y passer un très long moment sans que personne ne sache pourquoi. Le secteur sera ratissé, surtout après la découverte de bottes pleines de boue dans son garage, mais ses recherches ne donneront rien. Irina Lucidi se rendra même à la pharmacie de Morges pour savoir si son mari n'aurait pas acheté des somnifères afin de transporter plus facilement les filles sur une longue distance. Après cet arrêt dans la campagne suisse, toujours inexplicable et inexpliqué à ce jour, Mathias Schepp roule en direction de Genève. Il passe la frontière à 18h04. Sa plaque d'immatriculation est photographiée par le radar automatique qui surveille entrée et sortie de la Confédération. Aux alentours de 18h15, l'Audi noire est aux alentours d'Annecy. À 19h40, dernier SMS, Irina Lucidi croit alors que son ex-époux est toujours en Suisse, mais il est aux environs de Lyon. À partir de ce moment-là, son téléphone portable est coupé. La police française établira que cette nuit-là, l'homme a quitté l'autoroute A7 à hauteur du péage de Montélimar. Le lendemain de l'enlèvement, lundi 31 janvier, Mathias Schepp est à Marseille. Les images de vidéosurveillance en attestent. Il retire 7 500 € à divers distributeurs. Il envoie une carte postale à sa femme dans laquelle il évoque son désarroi. Des caméras le filment à l'entrée du parking de la rue Fort Notre-Dame. Il est vêtu d'un blouson et tient un sac de sport noir. Il est seul sur ces images. Alessia et Livia demeurent invisibles. Jacques Dallest, vous êtes l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime. Vous étiez procureur de Marseille entre 2008 et 2013. Marseille où se trouve donc, où vient échouer ce soir-là le père des jumelles. Vous allez être saisi quand, Jacques Dallest, des faits?
Écoutez, je n'ai pas la chronologie précisément en tête, mais forcément plusieurs jours après les faits.
Bien sûr.
Une fois qu'on a eu la certitude que la disparition, enfin l'enlèvement des mineurs, enfin des deux petites jumelles était avéré et que leur situation pouvait poser problème, qu'il y avait une vraie inquiétude sur leur sort compte tenu du conflit qui régnait entre le père et la mère.
Et alors, dès lors, vous allez ouvrir une information judiciaire, ça, une enquête ?
Alors, pas une information judiciaire, une enquête.
Préliminaire, c'est ça ?
En flagrant délit pour enlèvement et séquestration. Mmh. C'est le cadre juridique habituel, donc sous le contrôle du procureur, moi-même en l'espèce. J'ai confié cette enquête à la police judiciaire de Marseille, qui a travaillé énormément sur cette affaire, en liaison d'ailleurs avec leurs collègues de la police judiciaire de Corse, l'Ajaccio. Gros travail d'enquête pour essayer de retrouver le père et surtout de retrouver
les filles. De retrouver les filles. Alors, Jacques Dallès, vous l'avez dit, c'est toujours frustrant parce que finalement, les enquêteurs, ils ont un temps de retard par rapport à la personne. Il y a, les jours ont passé, il y a au moins 24 heures d'avance.
Bien sûr, c'est tout le problème, c'est que c'est souvent a posteriori qu'on se rend compte du caractère extrêmement inquiétant d'une disparition, d'un enlèvement, d'une situation d'absence. Et ce temps peut être joué en faveur de l'auteur, quand cet auteur a des intentions criminelles.
Bien sûr.
Bien sûr.
Pouvez-vous nous dire, Jacques Dallès, que disent ces images et ces informations que vous allez collecter dans les jours qui vont venir ? Qu'est-ce qu'on voit sur ces images ? Le parking, etc. Les retraits d'argent ?
Oui, alors on a essayé de reconstituer très précisément, de tracer le parcours de Maki Hachette lors de son arrivée en France, voir les lieux où qu'il a pu fréquenter, hôtel, son passage au poste de péage sur l'autoroute. Et on a eu des photos de retrait bancaire, comme vous l'avez dit, l'embarquement sur le ferry. Et on sait qu'il a été vu, clairement. Son véhicule a été vu, mais à aucun moment, nous ne voyons les visages, nous ne voyons même les silhouettes des deux petites jumelles.
C'est-à-dire
vraiment
que...
le problème de fond.
Oui, tout à fait. Vous n'allez pas les distinguer, mais ça ne veut pas dire peut-être qu'elles ne sont pas là à ce moment-là.
Bien sûr.
Elles peuvent
plusieurs
être...
hypothèses.
Allez-y.
Plusieurs hypothèses. Soit elle n'était plus dans la voiture une fois que Mathias Schlepp a quitté la Suisse. C'est possible. Soit elles étaient dans la voiture, mais petite taille, sur la banquette arrière, on ne les voit pas. Ou peut-être dans le coffre, tout simplement, malheureusement, et c'est une hypothèse auquel nous avons pensé.
Vous avez eu le sentiment, et peut-être vous l'avez aujourd'hui, je ne sais pas, vous allez nous le dire, qu'elles sont peut-être restées en Suisse, ces petites filles ?
C'est-à-dire, ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que toutes les incertitudes demeurent. Malgré les investigations, nous ne savons pas si les petites ont été tuées sur le territoire suisse, en France, sur le trajet maritime, en Italie, enfin, on peut imaginer toutes les hypothèses. Ce qu'on note simplement, c'est le suicide le 3 février de Mathias Schlepp qui démontre qu'il s'est passé quelque chose de terrible.
Ouais, et ça, évidemment, on va y venir dans cette heure du crime au fil des chapitres que nous allons dérouler. Arnaud Béda, journaliste en Suisse, et vous êtes également notre deuxième invité ce soir dans l'heure du crime. À ce moment-là, donc, on est au tout début, il est parti, il est en fuite, il a traversé la France, Mathias Schlepp. La mère, elle, chez elle, en Suisse, va mener sa propre enquête. Je crois qu'elle se démène de manière... étonnante d'ailleurs.
Oui, Irina a vraiment remué ciel et terre. Vous savez, elle plaisantait, elle disait « j'ai fait des études de droit, c'est un peu une déformation de professionnel ». Donc dès le soir même, elle a non seulement alerté la police, mais elle a vraiment remué ciel et terre. Ensuite, elle est partie pour Marseille, elle est allée voir les hôtels, les gens sur le port, enfin, elle est allée partout. Et puis, ce qu'il faut dire, surtout, je crois qu'il y a eu, de la part de la police suisse, il faut bien le dire, c'est un fait, c'était « Madame, soyez sans crainte, votre mari va revenir ». Enfin, on a essayé de la rassurer comme ça pendant plusieurs heures. Et ces heures-là ont été cruciales, capitales, et c'est là qu'en fait c'est joué le drame. Et ces heures-là ont été traitées un peu, comment dire, par-dessus la jambe par la police vaudoise.
Encore un petit mot, Arnaud Béda. Ce fameux mystère suisse-là, ces 5 heures au cours desquelles on ne sait pas ce qu'il advient de Mathias Schlepp. Il est en voiture, pas très loin d'ailleurs de son domicile. Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui là-dessus ?
On n'en sait pas beaucoup plus, mais on sait qu'évidemment, ces 5 heures qui sont capitales, depuis chez lui jusqu'à la frontière française, vous enlevez 1 heure, il en reste 4. Qu'est-ce qu'il fait pendant ces 4 heures? Et quand il va rechercher les petites jumelles chez le voisin d'en face, il a des bottes pleines de terre, déjà, qu'on retrouvera ensuite dans la maison. Mais a-t-il profité du fait que ces petites filles étaient chez le voisin pour aller creuser dans une forêt ou quelque part? Vous savez, beaucoup de gens sont convaincus aujourd'hui, y compris la maman des jumelles qui l'a dit au début de l'affaire, que l'affaire s'est probablement passée en Suisse. Mais évidemment, là, on n'a malheureusement aucune piste.
Mathias Schepp est à Marseille, mais il ne va pas y rester très longtemps. Dans une agence de voyage, il achète 3 billets pour se rendre en Corse, une traversée qui va s'effectuer en ferry et susciter bien des interrogations. À Marseille, Mathias Schepp a acheté un aller simple pour 3 personnes et un véhicule à destination de Propriano, en Corse. Dans la soirée du 31 janvier à 19h30, il embarque donc à bord du Scandola, un cargo mixte de 138 passagers, cabine numéro 211. Arrivée prévue le lendemain matin sur l'île de Beauté, aux alentours de 7h. Sur ce voyage, les témoignages vont diverger. Aucun des 37 membres d'équipage qui vont tous être interrogés ne se souviennent avoir croisé les fillettes. Des passagers disent en revanche les avoir aperçus sur l'aire de jeu du ferry, d'autres les avoir entendus pleurer dans la cabine 211. La présence de Mathias Schepp et de son véhicule sont attestées. Il a lui-même retiré les clés de sa cabine et le véhicule est enregistré dans les cales du navire. Comble de malchance pour les enquêteurs, la vidéosurveillance du Scandola est cette nuit-là en panne. La cabine 211 sera dans les jours suivants passée au peigne fin par la police scientifique. Recherches infructueuses, la chambrée ayant entre-temps été réoccupée à 8 reprises et nettoyée. Impossible de savoir ce que fait Mathias Schepp lors de cette journée du 1er février en Corse. Sur l'île, certains témoignages attestent de la présence des fillettes. Ils vont toutefois être difficiles à vérifier. Olga Hornek assure avoir vu les jumelles à 9h30 du matin du mardi 1er février à Propriano. L'une d'elles, qui pourrait être Alessia, portait un bonnet blanc à rayures roses avec des lunettes. Olga indique que leur père conversait avec une femme de 45-50 ans qu'il semblait bien connaître. Un pompiste installé sur la côte orientale, Jacques Corsini, dans le hameau de Travaux, est formel. Il a servi de l'essence ce jour-là à Mathias Schepp qui conduisait une Audi noire. Il a même vu l'une des jumelles entrer dans la station-service pour demander des bonbons. Mathias Schepp ne passe qu'une seule journée sur l'île. Il repart le soir même en empruntant un ferry direction Toulon. Cette fois, il embarque seul. Des recherches de grande envergure seront lancées quelques jours plus tard sur l'île, à la sortie de Propriano, sur la plage de Baracci, puis ensuite sur un itinéraire que Mathias et son épouse Irina avaient parcouru en 2008 lors d'une visite de la Corse. Des chemins escarpés sont visités, notamment ceux qui mènent à des chapelles. Le couple qui se déplaçait en voilier, Mathias Schepp est un excellent skipper, avait fait escale dans la petite baie de Favonne, sur la côte de Nacre, non loin de Porto Vecchio. La mère des jumelles, Irina, ira le 10 février sur place pour participer aux recherches, guidant les enquêteurs vers des coins où son mari aurait pu se réfugier. Jacques Dallest, vous étiez le procureur de Marseille entre 2008 et 2013, et à ce moment-là, vous allez avoir l'enquête évidemment en main. Alors là, c'est un tournant capital que ce voyage en Corse, parce que tout simplement, si les fillettes ont bien embarqué avec leur père pour se rendre sur l'île, ça change tout. Elles auraient pu rester sur l'île. Qu'est-ce qu'on sait avec précision de ce voyage, et notamment le voyage aller ?
Oui, alors comme vous l'avez dit, nous avons des témoignages selon lesquels les petites auraient été entendues, des pleurs d'enfants auraient été vus, soit sur le bateau, soit à l'arrivée en Corse, ou même ultérieurement, mais rien n'a pu être confirmé. C'est-à-dire que tous ces témoignages émanant de personnes de bonne foi n'ont pu être étayés de façon incontestable. Donc nous ne savons véritablement pas exactement si les petites étaient sur le bateau, si elles sont descendues du bateau, si elles ont accompagné leur père durant son périple en Corse. Ce sont les inconnus qui demeurent. Et donc, quand on rapproche tous ces témoignages, on peut penser qu'elles étaient présentes, mais encore une fois, aucune trace incontestable de leur passage sur le bateau.
Alors, on peut faire des hypothèses tragiques. Vous avez dit tout à l'heure que finalement, les petites filles, hélas, auraient pu aussi être dans le coffre. Elles pourraient être à ce moment-là dans le coffre. On peut imaginer qu'il ait essayé de se débarrasser des corps. Il a été évoqué également un crime tout simplement à bord, qu'elles aient pu être jetées à la mer. Est-ce que c'est une hypothèse de travail, ça ?
Moi, c'était une de mes hypothèses. Alors, si on écarte l'idée qu'elles aient pu être tuées en territoire suisse, qui est évidemment possible, comme lui a fait une forme de pèlerinage dans le cadre de son testament en allant sur les lieux qu'il aimait bien fréquenter, qu'il ait emmené les petites avec lui, on sait qu'il a fait des recherches sur son ordinateur quelques jours avant les faits, où il s'est intéressé aux techniques d'empoisonnement, par exemple. Il a pu très bien les endormir, si elles étaient avec lui sur le bateau, en pleine nuit, à un moment où il n'y a pas forcément grand monde sur un bateau, nous sommes la nuit du 31 janvier, début d'année, et là, il est très facile de les jeter à l'eau, ce qui expliquerait qu'on n'a retrouvé qu'une trace d'elles-mêmes. Et d'ailleurs, dans un de ses courriers où il revendique son acte, il dit qu'elles sont parties en paix, qu'on ne les retrouvera jamais.
C'est ce qu'il va dire.
C'est une mort douce, entre guillemets, de sa part.
C'est ce qu'il va dire, effectivement, à la fin de son terrible périple. Arnaud Béda, journaliste en Suisse, est ce soir au téléphone de l'heure du crime. Je le disais, Irina, la maman des jumelles, va se déplacer. Elle veut être au plus près des enquêteurs. Elle ne lâche rien du tout.
Elle ne lâche rien du tout et elle s'accroche jusqu'au bout aux moindres petites parcelles d'espoir. Elle se dit on va trouver quelque chose. Elle a l'énergie du désespoir. Il faut dire qu'elle a été littéralement admirable et qu'elle l'est encore. Elle est encore aujourd'hui. Imaginez le
traumatisme,
le drame intime vécu par cette femme. C'est inimaginable. Il n'y a pas de mots pour décrire ça.
Est-ce qu'on peut imaginer Arnaud Béda avec ce périple qui commence, qui est parti de la Suisse, ensuite il y a eu Marseille et désormais il y a la Corse, que peut-être Mathias Schepp cherche à brouiller les pistes?
Ah, ça, à tout le moins, hein, ça paraît évident qu'il a brouillé les pistes. Il y a beaucoup de choses inexplicables. Il retire à Marseille 7 500 euros, par exemple. Enfin, il y a beaucoup de l'histoire des tickets pour le ferry. Il en prend 3 à l'aller. Il en prend plus qu'un seul au retour. Il brouille visiblement les pistes. Vous avez parlé beaucoup des témoignages qui font état des jumelles qui auraient pu être aperçues, mais à Marseille, il n'y a aucun témoignage et il entre dans un parking dont il ressort plus une heure ou deux après et on ne le voit pas avec les jumelles et le propriétaire du parking témoigne qu'il avait l'air un peu perdu, un peu agité, Mathias Schepp, ce jour-là. Donc voilà, on est réduit aux hypothèses, mais le fait qu'il a brouillé les pistes est une évidence.
Et donc là, y a pas les témoins qui sont en Corse, quel crédit leur accorder? Alors le procureur, votre invité, Jacques Dallès, est plutôt sceptique sur ces témoignages, même s'ils sont de bonne foi. Qu'est-ce qu'il faut en penser?
Vous savez, il faut penser par exemple à l'histoire Maddy McCann, vous savez, au Portugal, tellement de gens qui pensent avoir vu Maddy partout dans le monde. Tous ces gens sont la plupart du temps, la plupart d'entre eux de très bonne foi, mais on pense avoir vu, c'est tellement fragile, hein, un témoignage humain.
Le père et ravisseur des jumelles retourne donc seul sur le continent. Il embarque à Bastia, direction Toulon, puis va se lancer dans un autre périple, un voyage sans retour celui-ci, mais qui va renforcer davantage le mystère régnant autour des fillettes. Sont-elles toujours en vie ? 3 jours après avoir enlevé Alessia et Livia, leur père débarque à Toulon, le 2 février. Il poste une nouvelle lettre à son ex-femme depuis La Valette sur Var, un nouveau courrier désespéré. « Sans la garde conjointe, je n'y arrive pas, dit-il. Je suis complètement fou, malade, détruit. À l'aide, je n'en peux plus, je n'y arrive plus. Tout ce que je voulais, c'était une famille. Je suis vraisemblablement malade, mais je ne sais pas de quoi. Au revoir pour toujours, il n'y a plus rien à faire. » Puis il emprunte l'autoroute, direction l'Italie. Malgré un signalement de son véhicule à toutes les polices européennes, la voiture du ravisseur passe entre les mailles du filet. Difficile de savoir ce que fait alors Mathias Schepp. Le 3 février, vers midi, le Suisse déjeune dans une pizzeria près de Naples, à Vitry-sous-le-Marais. Il est seul. Le serveur se souvient d'un touriste qui ne montrait aucune fébrilité. Il a normalement déjeuné et réglé l'addition en espèces. Il évitait simplement de regarder les enfants à la table d'à côté, dit ce serveur. Shep va passer l'après-midi à consommer de l'alcool. En début de soirée, il stoppe sa voiture sur le parking de la gare de Cerignola, puis se jette sous un train, l'Eurocity Milan-Bari. Avant de mettre fin à ses jours, Mathias Shep a posté toute une série de lettres, 7 au total depuis l'Italie. Il envoie de façon irraisonnée à son ex-épouse des plis successifs, renfermant les billets de banque retirés à Marseille. Les enveloppes vont arriver au fur et à mesure en Suisse, sans aucun mot d'explication. Avant de se jeter sous un train, le père des jumelles poste une ultime lettre dans une boîte proche de la gare. En l'absence de tournée, elle ne partira pas. Les policiers retrouvent dans l'enveloppe ce mot manuscrit qui résonne de façon dramatique. Mathias Shep écrit « Mes chers, je voulais mourir avec elle, mais il en est allé autrement. Je serai le dernier à mourir. Les fillettes reposent en paix. Elles n'ont pas souffert. Elles sont tranquilles dans un lieu paisible. Tu ne les reverras plus jamais. J'espère que tu ne t'ôtera pas la vie. » Funeste présage, dès les premières heures de la disparition, un testament rédigé en allemand, la langue maternelle de Mathias Shep, 3 jours avant l'enlèvement, entretenait le doute. Il comptait ses filles parmi ses héritières, mais au cas où elles devaient mourir, son frère et sa sœur hériteraient d'une partie de ses biens. Arnaud Béda, journaliste en Suisse, invité ce soir de l'heure du crime. Alors, il y a toute une série de courriers bizarroïdes et certains tout à fait terrifiants. Racontez-nous un petit peu cet étrange mélange des genres.
Ah, c'est un jeu de piste complètement macabre. Hein. Tout au long de cette espèce de folle cavale vers l'impossible, il a essaimé des cartes postales, des lettres avec des choses qui sont probablement vraies, d'autres qui sont imaginées, fantasmées. C'est très très difficile de cerner la vérité à travers ces courriers qui traduisent en fait surtout son mal-être et puis cette volonté quand même terrible de vouloir faire mal, de vouloir laisser son épouse dans le questionnement permanent, quoi. Et moins qu'on puisse dire, c'est que 10 ans après, il a assez bien réussi parce que on ne sait toujours pas.
On ne sait toujours pas. Effectivement, c'est son épouse qui est visée de la façon la plus violente qui soit, et tout est ambigu dans ce qu'il écrit. Je vous recite cette phrase dans sa lettre d'aveu du crime presque, mais en tout cas qui est très ambiguë. Mes chers, je voulais mourir avec elle, mais il n'en est pas allé autrement. Je serai le dernier à mourir. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont été tuées. On ne sait pas trop.
Oui, elle repose en paix. Le fait de reposer implique peut-être plus la terre que la mer, hein, peut-être. Il faut peut-être chercher la clé dans ces 5 heures. Enfin, on est dans un cluedo, quoi. On peut conjecturer pendant des heures et des jours.
Bien sûr.
Enfin, voilà, ça fait partie de ces grands mystères et pour lesquels il y a plusieurs hypothèses, plusieurs thèses possibles.
Arnaud Béda, il y a effectivement ce serveur qui le voit déjeuner, etc. dans ce restaurant, cette pizzeria, ça s'est avéré.
Est-ce qu'il y a d'autres... Ça s'est avéré, oui.
Exactement.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres témoignages en Italie, lorsqu'il passe en Italie, où on le voit, où on voit quelque chose?
Oui, il y a plusieurs témoignages, mais là, ceux-là extrêmement fragiles. Celui de le pizzaiolo là de la près de Naples, et celui-là a été comment a pu être authentifié de manière absolument certaine. Ensuite, les témoignages là encore sont plus fragiles. Il y en a un aussi près de la gare de Cerignola. On sait qu'il a qu'avant de se suicider, de passer sous le train, il a bu quasiment une bouteille de whisky complète avant de réussir à faire le pas. Alors là encore, n'a-t-il pas pu auparavant, une fois qu'il avait dans l'hypothèse où il a tué les fillettes voilà, il y a tellement de questions sans réponse dans cette affaire.
Bien sûr. Jacques Dallest, notre deuxième invité ce soir dans l'heure du crime, vous étiez procureur de Marseille entre 2008 et 2013 et vous avez eu en main cette enquête. Vous l'avez pilotée côté français. Alors là, tout se précipite avec la mort du principal acteur. Est-ce que l'enquête est dans une impasse à ce moment-là ?
L'enquête se poursuit. Évidemment, la mort du père complique les choses dans la mesure où l'auteur recherché, l'auteur présumé n'est plus là pour nous expliquer et dire ce qui a pu se passer. On le sait, dans les drames familiaux, celui qui porte atteinte à la vie des enfants se donne souvent la mort. On le voit malheureusement souvent. Ça n'a pas clôturé pour autant l'enquête, puisqu'il fallait retrouver, continuer à rechercher ces deux petites, Livia et Alessia. Certains ont imaginé qu'elles aient pu être confiées à la garde d'une tierce personne. Donc c'était une hypothèse possible et les vérifications ont été faites à Marseille, en Corse, voir si une personne de confiance aurait pu garder les petites, mais évidemment, nous n'avons rien trouvé. Et donc lui, il a le machiavélique Matthias Schepp, très cruel dans sa démarche, a mis fin, non pas à l'enquête, mais à la recherche de la vérité et à la découverte des petites vivantes ou mortes, malheureusement.
Alors, vous le disiez très, très justement, monsieur le procureur, il a suivi les étapes presque d'un pèlerinage, Matthias Schepp. Et lorsqu'il est en Italie, il retourne sur les lieux, je crois, qu'il avait visités avec son épouse, où ils étaient en vacances.
Oui, bah c'est ça, c'est-à-dire la mer, la Corse, l'Italie, les lieux où il avait certainement l'intention de mettre fin à ses jours. Et se jeter sous un train, c'est quand même un acte terrible qui signe le fait que lui-même avait commis un acte extrême pour arriver à cet acte-là, après avoir épuisé, entre guillemets, les joies de ses souvenirs des jours heureux avec les petites, avec sa femme. Et donc ce long périple entre le canton de Vaud et l'Italie reste dans l'incertitude et il a tout fait pour laisser planer les doutes et les inconnus. Et aujourd'hui encore, on peut imaginer que les petites sont vivantes, etc. Mais malheureusement, je crois que les choses sont maintenant assez claires pour nous.
Encore un petit mot, monsieur Dallès. Je sais que vous n'êtes pas psychiatre, mais qu'est-ce qu'il faut penser de ces envois d'argent, ces enveloppes remplies avec de l'argent qu'il a retiré au distributeur? Ça, c'est extrêmement étrange.
Oui, c'est un peu étrange. Et pourtant, il a pu le faire dans la plaie en parlant de la disparition des petites, tu ne les retrouveras pas, on ne les retrouvera pas. Et il essaye peut-être de solder de façon assez, dérisoire, en envoyant une somme d'argent à sa femme, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il se dit, je vais peut-être laisser un dernier leg, alors que j'ai commis l'acte extrême, le plus terrible pour la mère. C'est presque une forme de provocation, d'une certaine manière.
Force est de constater que l'enquête ne va plus apporter d'éléments probants. Impossible de savoir où Matthias Schepp aurait laissé les jumelles mortes ou en vie. Leur mère, Irina Luchidi, ne va jamais cesser de rechercher la vérité. Dans les mois qui suivent, les chances de retrouver vivantes Alessia et Livia s'amenuisent. Les témoignages continuent de parvenir aux enquêteurs plus ou moins fantaisistes. Un témoin dit avoir œuvré pour une officine de faux papiers et indique que l'une des jumelles se trouverait à La Chute, au Québec, et l'autre à Ottawa, en Ontario. Piste qui se perdent dans les sables. Irina Luchidi, la mère des enfants, évite de se montrer dans les journaux et à la télé. Au magazine Oggi, elle confie toutefois « Si Matthias était devant moi, je lui casserais la figure ». Elle décrit un homme égocentrique, autoritaire, narcissique, pour qui l'autre n'existerait pas. Dans une autre interview, Irina Luchidi estime que la piste suisse lui apparaît la plus plausible. Elle ne pense pas que son mari ait pu jeter les deux filles à la mer lors de son voyage en Corse. Aucun élément objectif nous fait penser qu'elles sont encore en vie. Confié récemment Jean-Christophe Sautrel, le porte-parole de la police cantonale du canton de Vaud, au journal Corse Matin. Le dossier est en sommeil. La cellule suisse Alessia et Livia, qui a compté jusqu'à 30 policiers, ne compte plus qu'un enquêteur principal en charge du dossier. Après la diffusion de photos vieillies des disparues, elles auraient aujourd'hui 16 ans, une piste a mené les enquêteurs jusqu'en Espagne. Une adolescente ressemblant fortement aux jumelles a été identifiée, mais il ne s'agissait ni d'Alessia, ni de Livia. Bonsoir Valerio Luchidi.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir dans l'ordre du crime pour nous dire quelques mots sur cette affaire. C'est très important de vous entendre. Vous êtes le frère de Irina Luchidi, la mère des jumelles. Première question toute simple. Vous vous souvenez évidemment de ce 30 janvier 2011. Quelle est votre réaction en apprenant l'enlèvement ?
Première réaction a été l'incrédulité. On n'y croyait pas du tout, ce qui arrivait. Après, avec ce qui s'est passé, ce qu'on a découvert après, bon, tout ça était totalement tombé comme ça, de but en blanc, incrédulité complète.
10 ans après, vous vous expliquez, Valerio Luchidi, ce qui s'est passé ?
En tous les cas, c'est quelque chose qu'en famille, on ne s'y attendait absolument pas, pas le moins du monde. Après, est-ce que c'est un acte de folie? Bien entendu, c'est un acte de folie, vu ce qui s'est passé. Est-ce que c'était prémédité? Probablement. Bon, ce qui est important actuellement, donc 10 ans après, c'est de comprendre pourquoi c'est arrivé et surtout de comprendre comment la police et les institutions judiciaires ont réagi dans l'immédiat, qui est le foyer de pas mal de problèmes qui sont arrivés après. Mmh. Donc c'est ça qui est important.
Et on l'évoquait avec Arnaud Béda, il y a eu des erreurs côté Suisse, trop de lenteur dans l'enquête?
Vous savez, l'histoire est bien connue, malheureusement. Oui, est-ce que la police a réagi trop tard? Oui, bien entendu, oui. Très clairement. Mmh. Et la réactivité de la police française, d'ailleurs, a été nettement plus immédiate et rapide par rapport à ce qui s'est passé en Suisse au départ.
Où pourraient être Alessia et Livia, selon vous?
Je n'ai aucune idée. On a toujours l'espoir de les retrouver, mais bon, l'espoir est extrêmement maigre. Vous pouvez bien vous l'imaginer. C'est des périodes... les périodes anniversaires sont toujours des périodes très compliquées, mais bon, voilà, je n'ai aucune idée, malheureusement.
Arnaud Béda, on écoute évidemment Valerio Lucidi et on entend bien ce qu'il dit. Effectivement, on revient toujours à la Suisse. Est-ce que selon vous, qui avez traité cette affaire, qui la connaissait parfaitement, est-ce que selon vous, les recherches côté Suisse, dans le canton de Vaud notamment, ont été insuffisantes?
Oui, je vais dire comme Valerio, que je salue à distance, que les recherches suisses n'ont pas été à la hauteur, malgré les tentatives aujourd'hui encore de dédouanement et opérations médiatiques pour faire croire qu'ils travaillent encore sur cette enquête. Vous savez, ils ont voulu se débarrasser de la patate chaude très 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 vite. Le procureur Gilles Hieron avait été catégorique. Il avait dit, j'ai tendance à dire que qu'on les a vraiment vus sur le ferry, quoi. Et donc en parlant des jumelles, donc il a vraiment cherché à se débarrasser de la patate chaude. Et la Suisse s'est reposée ensuite sur la France en disant, nous on y pour rien, débrouillez-vous.
Il y a eu des battues, mais assez tardives, je crois, dans le canton de Vaud, et notamment oui. Cet endroit où le téléphone borne.
Oui, il y a eu des recherches, notamment sur des plages, etc. Ce sont plus des opérations de relations publiques. On le voit plutôt comme ça, il faut bien le dire, qu'une véritable volonté de percer la vérité.
Jacques Dallest, alors vous étiez procureur à Marseille, hein, je le rappelle, entre 2008 et 2013, et vous avez eu cette affaire à traiter à l'époque. C'est toujours facile, évidemment, de refaire l'enquête a posteriori dans un fauteuil, c'est extrêmement simple. Mais est-ce qu'on a manqué de chance dans cette histoire? Est-ce que ce n'est pas allé assez vite? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ce résultat qui est dramatique?
C'est-à-dire que cet enchaînement de circonstances, le fait que l'intéressé, Matthias Schepp, ait traversé plusieurs pays, hein, Suisse, France, Italie, a compliqué les choses. Mmh. Et nous ne sommes intervenus qu'après coup, une fois que le drame a eu lieu, c'est-à-dire que lui se soit suicidé, et donc il fallait remonter le temps, et surtout essayer de retrouver les petits. Donc le temps n'était pas rattrapable, c'est toujours le problème. Il aurait fallu que nous puissions intervenir peut-être dès le 31 janvier, certainement, le lendemain de la disparition, pour essayer de l'intercepter à Marseille. Mais peut-être néanmoins, peut-être que les petites auraient été tuées auparavant, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Voilà, c'est toute la complexité de cette affaire, et c'est la première fois que nous avions affaire à un personnage de ce type-là.
Tout à fait.
Qui nous a aussi dérouté.
Et c'est le moins qu'on puisse dire. Simplement, vous parliez tout à l'heure du dispositif alerte enlèvement, le fameux Amber Alert inspiré du Canada. S'il y avait eu ce dispositif en Suisse, vous pensez qu'on aurait pu éviter cette course-poursuite, cette course contre la montre?
C'est possible, même si les questions de garde d'enfants, vous savez, de disputes entre conjoints, ne sont pas celles qui provoquent immédiatement l'alerte enlèvement. C'est parce que le caractère inquiétant, ce n'est qu'après coup.
Bien sûr.
Et la mère ne va pas forcément immédiatement saisir les services en disant « mon mari », à moins que le conjoint a immédiatement dit, c'était pas le cas en l'espèce, qu'il allait porter atteinte au jour des petites. À ce stade-là, ce n'était pas le cas. Elle pensait que tout aurait été très bien, tout se serait très bien terminé. Voilà. Et je crois pas que la procédure, si elle avait existé, aurait pu changer les choses immédiatement.
Un en mot, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, Jacques Dallest, est-ce qu'on saura un jour la vérité dans cette histoire?
Vous savez, on parle des cold cases, on parle des affaires non résolues, c'est toujours notre lancinant énigme. On l'espère, maintenant je crois que malheureusement ce sera bien difficile.
Arnaud Béda, je vous pose aussi la même question, est-ce qu'on saura un jour, en quelques mots, en trois mots?
Avis partagé comme Jacques Dallest. Qui sait?
Merci beaucoup Arnaud Béda, merci Jacques Dallest et Valerio Lucidi d'avoir été les invités de l'heure du crime avec ce soir la disparition des jumelles Alessia et Livia. 10 ans et toujours un épais mystère jusqu'à ce que peut-être un jour la vérité jaillisse grâce à un témoignage, pourquoi pas. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du crime.